agréable adieu, il suffit de garder la foi. C'est là le chemin de l'amour. Tu rendras les autres heureux en donnant toujours avec toi. Tu seras béni en retour.
Merci Dimitri, merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Magnifique. Un beau soleil dans les cœurs et aussi dehors avec toutes les fleurs aux arbres. C'est beau. Hein?
Oui.
On va retrouver bientôt les melons. C'est bien, c'est bien. Eh bien, écoutez, nos amis Marc et Cathy ont marié leur fille hier. Alors, tout le bonheur et la bénédiction. Amen. Que Dieu les bénisse. Et bénisse cette famille. Que Dieu soit glorifié. Amen. Jean chapitre 12, verset 35. J'ai vu les photos, c'est magnifique. Je vous ferai voir ça tout à l'heure. Et puis, Romains 12, le mariage religieux aura lieu bientôt. Et ça va être aussi magnifique. Vous croyez ça?
Oui.
Oui, ça va être magnifique. Romains, qu'est-ce que j'ai dit? Jean 12, 12, 35. Jean 12, 35. Vous y êtes? Je commence. Jésus leur dit, la lumière est encore pour vous, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Amen. Amen. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Jésus a dit ça à ses disciples d'alors, mais je crois qu'il nous le dit aussi à nous. Hein. Et les gens maintenant, de plus en plus, c'est une espèce de mode, les gens disent, oui, ça c'était pour le temps d'avant. Hein. C'est pas pour nous. Il y avait quelque chose qui était différent, c'est que Jésus était au milieu d'eux en chair et en os, c'est la seule chose qui était différente. Mais Jésus le dit aussi bien à nous. Vous savez, je me rappelle toujours ma mère, quand elle était petite, elle racontait tout le temps cette histoire. Elle avait assisté à ce qu'on appelle des projections lumineuses. Vous savez, c'était loin de ce que nous avons aujourd'hui. C'était des plaques en verre sur lesquelles il y avait des choses qui avaient été peintes ou des photographies, si c'était le grand luxe. Et on mettait ça dans un appareil, puis ça projetait contre un écran ou contre un mur. Elle avait assisté ça, certainement à l'église, ou je sais pas, avec ses parents, et c'était l'histoire de Jésus qui était projetée ce soir-là, et elle disait toujours qu'étant petite, elle regardait ça avec émerveillement, en se disant, ah, si seulement j'avais pu vivre du temps de Jésus, moi j'aurais suivi le Seigneur jusqu'au bout, tout le temps, toute ma vie. Or, quand elle s'est convertie, en 68, elle avait 52 ans, quand elle s'est convertie, elle a réalisé que c'était mieux aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Et elle le disait toujours, ça. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous qui l'avez connu. Mes frères et sœurs, c'est vrai, c'est mieux aujourd'hui. Bien sûr, hein, on ne voit pas Jésus en chair et en os avec nous, mais aujourd'hui, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a plus que Jésus en chair et en os devant nous. Il n'est pas en face de nous en chair et en os. Voilà, c'est vrai. Bon, voilà. Il vit en toi, mon frère, ma sœur. Il vit en nous. Nous avons avec lui une plus grande intimité que les 12 n'en avaient avec lui lorsqu'il marchait sur les routes poussiéreuses d'Israël, de Galilée, bord des lacs, des mers, ou même sur l'eau. Paul a dit ça une fois, vous pouvez dans 2 Corinthiens 5, 16, il dit « Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. » Voilà. C'est aussi un petit peu un règlement de compte avec certains qui disaient « Oui, mais toi, tu n'as jamais vu Jésus, nous, on a marché avec lui, gna 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 gna. » Oui, mais attends, maintenant, c'est mieux. » Et il avait raison, maintenant, c'est mieux. Jésus en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ça, c'est Camélia qui disait toujours. Christ en nous, Jésus en nous, c'est une pure merveille. C'est le miracle inestimable, c'est le mystère de l'incarnation absolument extraordinaire. Maintenant, il s'est incarné en nous. C'est un mystère pour ceux qui périssent, ils ne comprennent pas. Pas plus que quand ils voyaient Jésus, les incrédules ne pensaient pas que c'était Dieu en ce bonhomme. Eh bien, quand ils nous voient, ils ne pensent pas non plus que Jésus est en nous. C'est un mystère pour ceux qui périssent, nous dit la Bible. Il est la lumière en nous qui rend bonne nos conditions intérieures, mais aussi nos conditions extérieures qu'il est en nous pour nous donner le pouvoir de progresser. Alors, ne soyons pas négligents, mes frères et sœurs. C'est ça le problème. Ne soyons pas négligents. Il nous faut chérir la présence de Jésus qui est en nous. Il est en nous, il est dans notre esprit. Il n'est pas dans notre viande, il n'est pas dans notre chair. Dans notre chair, l'apôtre Paul, et je vous prêchais ça vendredi passé, je pense que vous l'avez tous écouté, dans notre chair, qu'est-ce que c'est qui habite dans notre chair ? C'est le péché. C'est le péché qui habite dans notre chair. Romains 7, 17, 20. Et Paul dit, en réalité, quand je pêche, ce n'est pas moi qui pêche, c'est le péché qui est en moi. Alors, c'est le péché qui est en lui ou c'est Jésus qui est en lui ? Jésus est dans notre esprit, mais dans notre chair, il y a encore le péché, parce que notre corps n'a pas été racheté. Vous voulez en savoir davantage ? Écoutez la prédication de vendredi si vous ne l'avez pas fait. Donc, il est dans notre esprit. Et lorsque nous savons ça, lorsque nous comprenons ça, lorsque nous croyons cela, lorsque nous avons une foi active par rapport à ces choses, et que nous croyons que c'est vrai, alors nous savons que toutes les conditions nous sont données pour nous apprendre à travailler, pour nous apprendre à progresser par l'esprit sur la chair. On travaille par l'esprit sur la chair. Notre chair, on a à la maîtriser par l'esprit. C'est deux choses bien différente. Lorsque nous avons conscience qu'il vit en nous, dans notre esprit, alors nous pouvons être guidés par lui, en écoutant ce qu'il a à nous dire en esprit, c'est d'esprit à esprit que nous communiquons. Il y a le moyen de la pensée. Nous avons à entretenir, une fois que nous avons cette connexion, une fois que nous avons compris qu'il est en nous, eh bien alors après, nous avons à entretenir cette relation de lui avec nous, et cela pour avoir une vie spirituelle, parce que c'est ça, avoir une vie spirituelle. C'est pas autre chose que ça. Alors, c'est vrai que pour avoir une vie spirituelle, il y a des efforts à faire. L'apôtre Pierre dit « Efforcez-vous d'ajouter à la foi la vertu, etc. etc. » Et beaucoup de chrétiens ne font presque aucun effort et négligent d'avoir une communion vivante avec Jésus qui vit en eux. Beaucoup ne se préparent même pas à s'exercer, à avoir un exercice, avoir des exercices spirituels dans ce sens. Ils ont tellement d'occupations, tellement de choses importantes, tellement de mêmes préoccupations. Ces occupations et ces préoccupations leur paraissent si importantes, n'est-ce pas, que ces gens-là se laissent surprendre par les ténèbres. Moi-même, je me suis laissé surprendre par les ténèbres à un moment donné dans ma vie. Je ne les ai pas vus venir. Vraiment, je ne les ai pas vus venir. Et ça m'a fait beaucoup souffrir. Voilà pourquoi je peux en parler avec conviction, parce que je sais de quoi je parle. C'est pourquoi je veux vous parler de ça ce matin. Je ne me place pas devant vous comme un super héros qui fait des miracles et qui ne se trompe jamais. C'est pas vrai. J'étais tellement occupé et préoccupé par le ministère que je me suis laissé surprendre par les ténèbres. C'est quand même un peu fort, ben oui. J'avais tant de choses importantes à faire pour l'œuvre de Dieu. C'est étrange, n'est-ce pas? Il y a une prédication de William Branham qui dit « Servir Dieu sans Dieu ». C'est pas que je servais Dieu sans Dieu, mais j'oubliais d'avoir des moments d'intimité, d'esprit à esprit avec le Seigneur Jésus. J'étais tout le temps occupé à faire des choses. On pourrait penser que lorsqu'on travaille pour Dieu, on est occupé à des choses spirituelles. Oui, bien sûr, mais pas que. C'est seulement dans un certain sens. Je m'activais tellement. Je négligeais d'entretenir ma relation avec la lumière qui vient en moi, avec Jésus. J'écrivais des livres, je prêchais, je recevais des gens qui avaient besoin d'aide, je partais 2-3 mois en Afrique pour prêcher, pour l'évangélisation, pour guérir les malades, ensuite je rentrais, je travaillais pour trouver de l'argent. Et ensuite, quand je dis que je travaillais, c'est-à-dire que j'allais intéresser les gens à l'œuvre de Dieu pour qu'ils donnent de l'argent, pour l'œuvre de Dieu, pas pour moi, hein, pas pour moi. L'autre jour, un frère était surpris parce qu'il croyait que quand il envoyait des dons à C'est Faisable, c'était moi qui mettais dans la poche. Non, ça part dans C'est Faisable, c'est-à-dire dans l'œuvre de Dieu, c'est pour l'humanitaire, c'est pas pour moi. Moi, j'ai ma petite retraite, mais j'ai pas besoin, je demande pas des dons pour mon ministère. Non. Alors donc, et puis aussi, je travaillais pour restaurer le château. Vous rappelez, il y a eu de l'argent qui est rentré, du boulot qui est rentré, du boulot qui était fait, des tas de choses qui ont été faites. On a même passé dans les journaux tellement que c'était important ce qu'on faisait. Hein? Et même à la télévision, comment s'appelait cette émission pourrie là ?
Envoyé spécial.
Envoyé spécial, voilà. Alors bien sûr, je comptais sur mes frères et sœurs de la communauté pour faire ce que j'avais pas le temps de faire ou ce que je ne savais pas faire. Mais tout ça, c'était pas mal, c'était bien. C'est ça le ministère, c'est ça, c'est œuvrer, travailler pour Dieu, c'était bien. Je passais des heures à lire ma Bible, à lire des bouquins chrétiens, j'ai toujours, hein, 3-4 bouquins à lire en même temps. Mais j'aime ça, je me plains pas, mais je vous explique pourquoi, comment j'ai réussi, comment c'est possible, même dans cette situation-là, d'être surpris par les ténèbres. Je répondais à tous mes mails, tous les trucs Facebook, aux gens qui m'écrivaient sur Révélation Bible, les lettres par courrier, je priais, je jeûnais, bref. Tout ça, c'était des occupations spirituelles. Mais je négligeais ma communion avec la lumière qui était en moi, avec Jésus qui était en moi, je le confesse, je me suis laissé avoir par les ténèbres comme ça. C'est quand même fort, hein. Et je vous dis ça avec humilité pour que vous compreniez que ça peut arriver, même en nous occupant des choses spirituelles. Alors, dans quelle sorte de ténèbres je me suis retrouvé? Des ténèbres aux apparences spirituelles, des ténèbres déguisées en lumière. Mes frères et sœurs, même en étant au service du Seigneur, on peut se laisser surprendre par les ténèbres. Des gens qui viennent avec la bouche en cul de poule pour vous dire « Ainsi vous dit le Seigneur », puis voilà, puis vous tombez dans le truc. Alors, sachant cela, voyant cela, comprenant cela, eh bien, je suis plus à même de vous comprendre, vous, qui vous levez tôt le matin pour courir au travail, en passant par la crèche ou à l'école pour déposer les gamins, qui mangeait en 30 minutes vite fait sur au self ou je sais pas où, de la malbouffe en plus, la plupart du temps, qui passait des heures dans les embouteillages, qui passait des heures dans les transports en commun, qui rentrait chez vous, et puis pour les sœurs, vous devez encore faire leur passage, la lessive, puis coucher les gamins, et puis vous lisez votre Bible un quart d'heure, parce que voilà, mais vous êtes épuisés, vous êtes si fatigués. Vous avez été énervé par un collègue ou par un casse-pied à un guichet, je ne sais pas quoi. Enfin, il y a eu plein de choses dans la journée, vous êtes épuisé. Et un jour, vous vous rendez compte que vous êtes environné de ténèbres. Vous vous êtes laissé avoir par les ténèbres. Quelle sorte de ténèbres? Ben, j'en sais rien. Moi, ça peut être des ténèbres d'habitude. L'habitude. La lassitude. Des ténèbres de ras-le-bol, des ténèbres de malfaisants, des malfaisants qui sont autour de vous, qui vous entourent. Et puis, vous savez, ça, c'est terrible, parce que ça peut boucher l'horizon, tout ça. Bref, vous ne savez plus très bien où vous en êtes, et vous êtes environné de ténèbres. Mon frère, ma sœur, quelles que soient les erreurs que tu aies commises qui ont permis ça, ne perds pas ton temps à te lamenter, surtout ne te décourage pas. Ça arrive à tout le monde un jour ou l'autre, et tant mieux, comme ça au moins on apprend quelque chose. Tu sais, le pire, c'est pas de commettre des erreurs ou d'être environné de ténèbres. Le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est de se dire qu'un idéal spirituel est quelque chose d'absolument irréalisable. C'est ça le pire. Ou alors le pire, c'est d'abandonner, carrément d'abandonner. Non, je peux pas, bon, voilà, j'y arrive pas. Puis... Ça, c'est le pire. Mon frère, ma sœur, c'est jamais trop tard pour reprendre le chemin de la lumière. Parce que si les ténèbres t'environnent, eh bien, au point où il te semble que Jésus n'est plus là, rappelle-toi que c'est faux, il est là. C'est juste toi qui n'es pas, c'est toi qui n'es pas là. Il est là, il a toujours été là, et il sera toujours là, toujours. Ne laisse pas passer le temps. Allume la lumière. Allume la lumière, tu vas me dire, mais il faut faire comment? Allume la lumière, réanime la lumière qui dort en toi. Jésus dort au fond de toi, quelque part. En esprit, c'est quelque chose, il est endormi. Réveille-le, Jésus, au secours, va sur tes genoux, crie. Ah, ou alors, tu fais, moi j'ai des amis, moi j'ai fait aussi. Alors, allez dans les bois, puis vous criez à Dieu. Billy Graham a fait ça. J'ai lu ça dans un de ses bouquins. Il a posé sa Bible sur un tronc d'arbre, qui était coupé par terre, là, et il a crié à Dieu, il a crié à Dieu. Parce que lui aussi s'était laissé prendre des grandes missions, des machins, des organisations, des rencontres, des comités, des machins. Et puis un jour, il se dit, je fais quoi là? Il était vide, il se sentait vide. Il emmenait plein de gens à Jésus, moi la même chose. Mais il se sentait vide. C'est ça, pour moi c'était ça le truc. C'était pas d'être dans les ténèbres d'une doctrine étrange ou que sais-je, c'est pas ça. C'est de me sentir vide face à une force de malfaisance, d'une force spirituelle malfaisante. Alors quand tu vas crier à Dieu, Jésus ne va pas attendre 50 ans, hein. Il va dire, ah bon, tu te souviens de moi, hein? T'as peur de quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et voilà, le dialogue sera rétabli, mais c'est à toi de faire le premier pas, c'est à toi de crier à Dieu, c'est à toi de le chercher, parce que c'est toi qui l'as laissé tomber. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est la même chose aussi dans les couples, c'est la même chose dans les amitiés. Ah, si t'envoies pas un petit mot de temps en temps à tes amis, ben au bout d'un moment ils vont penser que tu les as oubliés, et puis voilà, puis le temps passe, et puis on les perd de vue, et c'est toujours pareil. Il faut garder le contact, entretenir le contact avec Jésus. Le dialogue, rétablir le dialogue. Alors une fois que le dialogue est rétabli, eh ben, il te restera plus qu'à l'entretenir. Écoute, déjà en ce moment, Jésus te parle. Au travers de ce que je te dis, il te parle. On n'est pas simplement réunis là parce que c'est la tradition. Ce que je vous apporte, c'est la parole de Dieu et il te parle ce matin. Et il va commencer à t'aider à créer des nouvelles situations qui vont te permettre d'atteindre la lumière. Rien ne peut t'empêcher de retrouver la voie. Rien ne peut t'empêcher. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Ne dis pas, non, arrête. C'est toi. Toi tout seul avec ton Dieu. Si tu le souhaites vraiment, voilà. Parce que vous savez, vous avez des gens vicieux, ils aiment bien être dans les problèmes. Ils aiment bien, oh, j'ai des problèmes. Dame Ned. Mais ils les cherchent, hein. Alors, ils aiment ça, en fait, ça leur donne une raison de vivre. Si t'es comme ça, ça sert à rien de crier à Dieu, hein, Dieu le sait, on peut pas le tromper. Mais si tu es vraiment sincère, si tu cherches vraiment la lumière, si tu en as marre d'être environné de ténèbres, crie à Jésus. Je vais te dire une chose étrange. Jésus a plus confiance dans un être qui a commis une erreur, qui a négligé sa communion avec Dieu, et qui se repent, qu'en celui qui a jamais rien fait de mal. Je vais même te dire pourquoi il a plus confiance dans une telle personne, c'est parce que celui qui s'est jamais laissé avoir par les ténèbres, il ignore souvent qu'il doit prendre des précautions. Hein? Il n'a pas d'expérience, c'est un bleu. Il n'a pas d'expérience, tu vois? Il n'est pas encore solide. Là, tous les dimanches matins, avant de venir au culte avec Michou, on va sur un terrain et il y a une quinzaine de personnes qui sont là, on est tous avec nos petits chiens. C'est une école pour les petits chiens. Alors, on participe là, et le chien apprend des choses, puis moi j'apprends aussi beaucoup de choses, Michou aussi, comment quel rapport avoir avec les chiens. Et... c'est formidable, mais c'est long, c'est long, c'est long. Mais ça vient, c'est fatigant aussi, mais ça vient. Et nous aussi, on est à l'école, et puis c'est fatigant. Jésus aussi, ça fatigue, hein. Il aimerait bien pouvoir enfin se manifester au travers de toi, librement, en communion avec toi, se réjouissant avec toi. Puis non, là, tu le laisses tout seul, tu fais ton boulot, ta foi. Hein. Il dit, c'est ta foi qui t'a guéri, c'est ta foi qui t'a sauvé. Il y a beaucoup de gens, Jésus n'a même plus besoin d'intervenir, c'est la foi des gens, c'est ma foi, et puis lui, il est là derrière. Où on dit Alléluia, gloire à Dieu, mais en fait, il n'y a pas de cette communion avec lui. C'est important d'avoir cette communion. C'est important d'être là pour apprendre, et puis à l'école. Vous voyez, à mon âge, je vais encore à l'école. Vous direz, mais non, c'est ton chien qui est dressé. C'est moi qui suis dressé. J'apprends à avoir une relation. Et nous devons apprendre aussi à avoir une relation avec les uns, avec les autres. C'est différent. Je ne peux pas avoir la même relation avec mon chien qu'avec ma fille. Il ne faut pas charrier. Eh bien, avec Jésus, c'est encore différent. Voilà. Ben, ça s'apprend aussi, ça s'apprend. Et beaucoup de gens ignorent parce qu'ils n'ont pas l'expérience, ils ne sont pas solides. Mon chien, il n'est pas solide encore. Il fait des foufous. Il obéit sur le moment parce qu'il sait qu'il va avoir une petite récompense. Et jusqu'à ce que ça rentre dans sa tête et puis qu'il le fasse sans récompense, il y a encore un petit chemin à faire. Hein. Il n'est pas encore solide. Puis il met les pieds n'importe où. Il y a des endroits là-bas, il vaut mieux pas mettre les pieds parce qu'il peut se les coincer. Ben nous, c'est la même chose. Et Jésus fait plus confiance à quelqu'un qui a déjà eu un problème, qui est déjà tombé, mais qui s'est repenti, qui revient, et puis qui s'est humilié, et puis qui cherche la lumière, qu'à une personne qui a jamais eu de problème. En fait, les gens qui n'ont jamais eu de problème, c'est parce qu'ils n'ont jamais rien foutu. Hein. Non ? Bien sûr. Voilà. Toi, tu as passé par les griffes de Satan, toi qui as souffert, toi qui t'es redressé, te rendant compte que tu t'es fait avoir et qui a crié à Jésus de te sortir de là pour accomplir sa volonté, eh bien, Jésus te chérit encore plus que les autres. Jésus te chérit plus que les autres. C'est ce qu'il est en train de dire quand il dit « Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 1000 personnes qui crient Alléluia. » Beaucoup de gens pensent « Voilà, ça c'est pour l'évangélisation, blablabla. » C'est aussi pour les chrétiens. Quand un chrétien qui a fait des bêtises ou simplement qui était négligent et a négligé sa communion avec Jésus et puis se retrouve dans des espèces de englué dans les ténèbres de malfaisance, etc. Ben alors avec des gens casse-pieds, il crie à Dieu puis Dieu le délivre, Dieu le chérit et ça devient quelque chose de très fort et la personne elle est beaucoup plus forte après qu'avant et quand il se repent, il y a plus de joie pour lui, dans le ciel, que pour tous les autres qui sont là, Alléluia, dans les églises. Vraiment. Jésus se dira, enfin un sur qui je vais pouvoir compter. Voilà. Quelqu'un qui sort des ténèbres. Quelle que soit ta chute, quelles que soient tes ténèbres, peu importe, c'est toujours possible de se relever. Toujours. Mais bon, pas non plus que tu ailles croire que puisque c'est toujours possible, ben tu peux continuer encore dans ton égarement pour mieux apprendre à... et puis en apprendre encore davantage. Non. Puisque Dieu te parle au travers de moi ce matin, va sur tes genoux, rétablis la communion avec Dieu, confesse si tu as des choses à confesser, et puis réjouis-toi, chéris la présence de Jésus avec toi, et puis tu verras, il te relèvera, et il sera content. Il faut pas, on se moque pas de Dieu, on peut pas. C'est comme ceux qui disent, quand le péché abonde, la grâce surabonde, alors péchons, comme ça la grâce de Dieu surabondera, et Dieu sera encore plus glorifié, alors je vais pécher afin que Dieu soit glorifié. Non, mais il faut être tordu, on se moque pas de Dieu, hein, on se moque pas de Dieu. Bon, de toute façon, nous avons tous commis suffisamment d'erreurs jusqu'à maintenant. Je pense que cette prédication, à tous les niveaux, je pense que chaque chrétien va se sentir plus ou moins concerné, parce qu'il y a des niveaux différents de ténèbres. Hein. Vous avez des ténèbres qui sont simplement un peu du brouillard, plus ou moins, et l'autre, c'est bien épais. Hein. Eh bien, que ça soit des petits brouillards ou que ça soit bien des grosses ténèbres, eh bien, vous pouvez crier à Dieu, il fait la lumière. Il allume l'interrupteur, et puis voilà, ça se termine. Et puis vous recommencez à respirer, et vous revoyez clair de nouveau dans votre vie. Il est temps de s'assagir, il est temps d'allumer la lumière, il est temps de s'assagir pour bénéficier des bonnes conditions que Jésus nous donne, que la lumière nous donne, que Dieu soit béni. Amen. Je pense avoir été clair. Que Dieu bénisse sa parole dans les cœurs de chacun de vous. Faites sa volonté. Faites sa volonté, mais n'oubliez pas de la faire avec lui. Rappelez-vous, il a dit qu'il porte le joug avec nous. Et ça veut dire qu'il est vraiment avec nous. Vous avez déjà vu un joug. Si vous n'avez pas vu de joug, il faut aller à la campagne. Vous allez demander à un paysan qu'est-ce que c'est un joug. C'est un truc en bois qu'on met sur la tête des bœufs et un bœuf de chaque côté pour pouvoir tirer en char, la charrue ou quelque chose. Jésus porte d'un côté, vous portez de l'autre. C'est une communion. Vous devez marcher au même pas que lui. Vous devez avoir conscience qu'il est là. Vous n'êtes pas tout seul à faire les choses. Bien sûr, même si vous dites gloire à Dieu, alléluia, c'est bien, mais c'est pas seulement ça, c'est avoir des moments d'intimité personnelle avec lui. C'est bien de donner de l'argent, c'est bien tout ça, mais vous pouvez, et puis perdre votre communion avec Dieu. C'est dommage, parce que c'est la plus grande richesse que vous pouvez avoir. C'est d'être conscient de la présence de Dieu avec vous, d'avoir ces moments privilégiés, extraordinaires, merveilleux. L'autre jour, j'étais avec un homme qui se marrait, qui rigolait au sujet du parler en langue. Ce pauvre homme, il ne se rend même pas compte que c'est tellement magnifique de pouvoir louer le Seigneur en esprit, en vérité, comme ça. C'est tellement beau, c'est tellement... Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous prenez du temps pour, dans des moments privilégiés comme ça, de parler en langue, de louer votre Dieu? C'est des moments magnifiques. Il faut pas négliger ces choses-là. On prie dans la chair aussi, on prie, on fait des prières humaines, mais il y a aussi des prières de l'esprit, il y a aussi les chants, on peut chanter en esprit, hein, et quand on chante en esprit, c'est magnifique aussi. Tout ça, c'est des moments, il faut privilégier, il faut chérir Jésus qui est en vous. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais encore remercier tous ceux qui font des dons, j'ai parlé de dons là. Sur Révélation Bible, vous avez un petit cadre doré en haut, c'est marqué faire un don, alors n'oubliez pas. Faites un don, c'est pour l'œuvre de Dieu. Je vais bientôt partir là en Afrique et on a de quoi faire, hein, mais plus il y a, plus on peut faire. Donc n'hésitez pas encore à donner à l'œuvre de Dieu. Là, on a donné à Nicolas, on va lui envoyer encore un virement pour qu'il puisse acheter 6 tonnes de riz. C'est pour des gens. C'est-à-dire c'est des milliers de personnes. On fera des photos, on fera des vidéos, vous aurez tout ça sur Révélation Bible. N'hésitez pas, n'oubliez pas, c'est pas à moi que vous donnez, ça vient pas dans ma poche, c'est pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus, je te demande vraiment d'aider mes frères et sœurs, qu'ils se secouent et qu'ils te cherchent, qu'ils invoquent ton nom, qu'ils crient à toi et qu'ils rétablissent la communion avec toi. Tu les as jamais abandonnés. C'est eux qui ont simplement été négligents. Bénis-les. Bénis-les comme tu m'as béni. Fortifie-les comme tu m'as fortifié. Merci Jésus. Amen. Amen. Amen.